OK, alors on va commencer avec le chapitre 31 de la Genèse, les versets 1 à 21. Genèse 31, versets 1 à 21. Je voulais vous lever pour qu'on puisse lire la parole. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a tout pris ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes terres, de tes pères, et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob, je répondis, me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde. » Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva et il fit monter des enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père, et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit, avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, on va regarder cette histoire-là qui est passionnante, l'histoire de Jacob. Alors, on se souvient, pour regarder un petit peu dans le passé, comment Jacob avait agi envers son père. Il avait chercher à le tromper, acquérir la bénédiction au moyen de la tromperie. Et ça avait mal tourné un petit peu. Ça aurait pu mal tourner au point qu'il aurait pu perdre sa vie. Ésaü, son frère, s'est choqué contre lui parce qu'il s'était fait avoir, contrairement dit. Et Ésaü le menaçait de mort. Et sa mère lui avait dit, va-t'en pour quelques mois, puis il va se calmer, puis tout va se replacer. On voit que c'est pas tout à fait de même, ça s'est passé. Il a été obligé d'aller là-bas, il a voulu avoir sa première femme qui était Rachel, son beau-père l'a trompé. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Dieu est en train d'utiliser un défaut que son enfant a pour lui faire rencontrer une personne qui est encore plus trompeur que lui dans le but de le corriger. Quand on lit ce livre-là de la Genèse, il faut voir ces choses-là. Non seulement, le Seigneur ne veut pas juste nous raconter une histoire. Là. Il veut nous raconter des principes, comment il agit envers ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait pour nous corriger de certains défauts qu'on peut avoir? On se souvient qu'il avait pensé qu'il partirait juste pour quelque temps. Il était là plus que 20 ans. Et là, quelque part, son beau-père, comme il dit, il a changé son salaire 10 fois. Autrement dit, le Seigneur s'est servi de tout son séjour de là-bas pour transformer le caractère de Jacob et d'en faire un homme selon Dieu. On va voir que c'est pas fini, sa formation, mais il y en a un grand bout de fait. Et là, le Seigneur, c'est lui-même qui décide du moment où Jacob se doit de quitter son beau-père et amener son troupeau. On avait vu dans les leçons précédentes que lui pensait que c'était parce qu'il était fin, que, bon, il prendre des branches, puis emmener les brebis en chaleur pour que... Et il avait pris un arrangement avec son beau-père. Son beau-père avait tout sorti, les brebis blanches, ils avaient mis très, très, très loin. Donc, c'est-à-dire les brebis marquetées, tachetées, ils avaient emmené loin. Donc, il se disait, son salaire qu'il me demande maintenant, son nouveau salaire, là, ça ne marchera pas parce qu'il n'a pas de brebis qui ont ces couleurs-là. Lui, il pensait de faire un bon coup. Et Jacob, lui, il se pensait intelligent en faisant ça. Mais comme on voit dans le texte, Dieu lui a montré que ce n'est pas parce que ces petits tours de magie qu'il a réussi à avoir le gros troupeau, que c'est Dieu lui-même qui a intervenu pour que les brebis donnent des marquetés, des tachetés et tout ça. Alors, on voit comment Dieu agit de façon... Même si on ne se rend pas compte que Dieu agit, il agit. Et quand le moment arrive et qu'il considère qu'il t'a corrigé de ce qu'il te veut corriger, la leçon à apprendre quand on lit un livre comme ça, c'est de voir que Dieu fait la même chose dans nos propres vies. Quand on agit par la chair, autrement dit, et qu'on ne fait pas les choses selon Dieu, Dieu nous corrige. Et des fois, ça se fait sur du long terme, voyez-vous, dans le cas de Jacob, ça a pris 20 ans. Dieu fait la même chose pour nous. Alors, c'est les leçons à retenir de ces choses-là. Et l'autre leçon, si on veut apprécier le passage de ce matin, il faut se rappeler qu'est-ce que Dieu avait promis. Mais avant, je vais vous donner le titre que j'ai donné ce matin à la leçon. L'Éternel sonne l'heure du départ de Jacob. On voit dans le texte que c'est Dieu qui a dit à Jacob, « Maintenant, là, c'est le temps. Pars, va-t'en. » Mais on va voir que lui, il a voulu tromper encore son beau-père. Il a attendu qu'il soit allé tondre ses brebis. Il s'est poussé, autrement dit, en catimini. Il avait peur de chicaner avec son beau-père. Fait qu'il dit, « Je vais me pousser. » Pendant qu'il est parti, puis on va s'en aller. Mais on va voir que l'histoire va continuer, qu'il va se faire corriger encore d'autres fois. Donc, ce qu'on regardait aujourd'hui, c'est que l'heure du départ est annoncée de façon très claire, versets 1 à 3, par le Seigneur lui-même et par les circonstances que le Seigneur permet qui arrivent dans sa vie, à ce moment-là de sa vie. Deuxième chose qu'on va regarder, deuxième point, c'est que l'heure du départ est annoncée de façon cordiale. On va voir qu'il aurait pu arriver puis dire, « Ouais, je vais fournir mes femmes, puis je vais leur dire qu'on s'en va. » Puis là, peut-être qu'il aurait pu arriver que ces femmes disent, « Hey, on s'en ira pas de cette façon-là, papa sera pas de bonne humeur. » Ça aurait pu que ça se fasse pas de façon cordiale. Il a fait venir ses femmes vers lui, il lui a dit, Dieu a dit de s'en aller, il lui a rappelé comment son beau-père l'avait traité, et les filles, au lieu de dire, « Non, c'est pas correct de faire ça, on devrait pas faire ça », Dieu a permis que ses filles voient la vérité de ce que Jacob disait et décident de s'en aller avec lui. Alors, quelque part, on voit la main de Dieu agir dans tout ça. Dans le verset 4 à 16, le départ se fait, mais il se fait de façon cordiale. Ses filles, ils ne s'ostinent pas avec lui. « T'as raison, Dieu te l'a dit, ton père, notre père, il t'a volé, puis il nous a volé. Maintenant, oui, va-t'en, parce qu'on pense que t'as raison. » Mais ça aurait pu se faire de façon non cordiale, autrement dit. Ça aurait pu arriver que la chicane pogne dans la famille. Non, moi, je reste ici, puis je reste avec papa, puis c'est pas de même que ça s'est passé. La troisième idée, c'est qu'on va regarder que l'heure du départ est annoncée. Tout s'enligne pour que ça se fasse de façon... il a pu tout emmener son troupeau. Il a toutes ses femmes étaient d'accord. Il a parti avec toute sa famille, puis il a profité d'un moment où son beau-père était parti, pour pas qu'il s'en rende compte, autrement dit, il a voulu comme éviter la chicane. Et à quelque part, on voit la main de Dieu dans ça, le fait que Dieu dise « va-t'en », mais il aurait pu dire « va-t'en », ça aurait pu mal tourner, sa famille en chicane. Non, sa famille était d'accord, et il a pu tout prendre ce qu'il voulait, puis il a choisi le bon moment pour quitter, autrement dit. En gros, c'est ça. Mais si on veut bien apprécier le passage d'aujourd'hui, il faut absolument revenir et regarder qu'est-ce que l'Éternel avait promis à Jacob lors du rêve où il avait vu l'échelle. Dieu avait fait une promesse. Et si on ne garde pas ça à l'esprit, on perd une très grande partie de la signification du texte d'aujourd'hui. Et on va le relire, ce passage-là, le fameux passage où il a vu les anges monter sur les échelles. Genèse 28, versets 13 à 15. Et on va voir que dans ce passage-là, le Seigneur y fait des promesses très précises à son serviteur Jacob. Et quand on se souvient de ce que Dieu a dit, puis qu'on voit ce qui arrive, on voit que les promesses de Dieu s'accomplissent tout le temps à la perfection. Une autre leçon pour nous là-dedans. Alors, Genèse 28, versets 13 à 15. Alors, ici, c'est le passage où Jacob voit le songe de l'échelle. Alors, ça dit dans le verset 13. « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Il est en train de faire la promesse de la terre pour Israël. Ensuite, il dit, « Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. » Autrement dit, il est en train de dire que la postérité, c'est Jésus-Christ, on l'a vu, que ça a un lien avec Galates 3:16, où on dit que la promesse a été faite à Abraham et sa postérité, c'est Christ. Autrement dit, il est en train de dire que sur le long terme, il va y avoir beaucoup d'enfants de Dieu qui vont venir grâce à cette promesse-là. Il dit, « Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que j'ai dit. » Dans le dernier verset, il y a 5 promesses. Mais avant d'aller dans les 5 promesses, j'aimerais ça qu'on y aille vous montrer la vérité de ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai nommé le verset, mais on va aller le lire. Quand il dit « à ta postérité », qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire ses enfants qui vont suivre, ou aussi faire référence à une postérité que le Nouveau Testament nous a dit qui était cette postérité-là. Galates, chapitre 3, verset 16. Et je vais la lire dans la version Sterval. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à ses postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et à ta postérité qui est Christ. » Il est en train de rappeler à Jacob que la postérité à qui les promesses ont été faites, c'est la personne même de Jésus-Christ. Quand on fait le lien entre les deux, là, on commence à voir les choses de façon beaucoup plus claire. Puis dans la version Darby, dans le même verset, il dit « Or, c'était à Abraham que les promesses ont été faites et à sa semence. » Il n'est pas dit « et aux semences » au pluriel, comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul, « et ta semence qui est Christ ». Donc la promesse a été faite à Abraham, mais ça se transmettait de père en fils. Abraham, Isaac et Jacob. La promesse continuait à se transmettre d'une génération à une autre génération. Mais ce qui est important pour nous d'aujourd'hui, c'est de se rappeler que dans le verset 15, donc, il y avait eu des promesses qu'on pourrait dire, c'était les promesses de l'Alliance. Ce qui a été promis à Abraham, qui a été transmis à Isaac, qui a été transmis à Jacob, ça, je m'occupe de ça. Mais il y avait des promesses dans le verset 15 qui étaient des promesses personnelles. Là, il s'adressait à l'individu Jacob. 5 choses qu'il lui promettait dans le verset 15. La présence divine. Et voici, je suis avec toi. Si on aurait un voyage à faire, puis que Dieu nous disait, voici, je suis avec toi. Ou si Dieu nous donnait un ministère, puis que Dieu nous disait en même temps qu'il nous donne un ministère, voici, je suis avec toi, pensez-vous que j'aurais peur de partir de ministère? J'aurais pas peur. Puis vous autres non plus, peu importe ce que Dieu vous confierait. Autre chose qu'il lui promet, c'est la protection divine. Et je te garderai partout où tu iras. On va voir, l'histoire n'est pas finie, parce que les prochaines semaines, vous allez voir que Dieu va le protéger, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se produire. Dieu prend des promesses, mais ça s'accomplit dans le temps. Des fois, ça prend du temps avec ça s'accomplisse, mais pas à cause que ça prend du temps qu'on ne peut pas voir la fidélité absolue du Seigneur quand il promet des choses. Troisième chose, la direction divine. Et cette promesse-là en particulier, elle a un lien avec le texte d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur lui dit, « Et je, parle de lui, te ramènerai en ce pays. » Tu es en train de dire, un jour, tu vas partir de Laban, puis tu vas t'en aller dans ton pays, et il ne dit pas, c'est toi qui vas s'en retourner. Il dit, « Je te ramènerai dans ce pays. » Quatrième chose qu'il lui promet, la soutenance divine. Autrement dit, Dieu va te soutenir. Il dit, « Car je ne t'abandonnerai point. » Le Seigneur nous dit-il pas la même chose dans le Nouveau Testament? « Je ne t'abandonnerai pas. » On est des enfants de Dieu. Dieu nous abandonnera jamais. Cinquième, la fidélité divine. Il dit que je n'ai fait tout ce que je t'ai dit. Ce qui est le fun avec le Seigneur, là, c'est que quand il fait des promesses, il les tient. Contrairement à nous, qu'on est habitués avec des promesses d'hommes qui ne sont pas tenues à moitié du temps, qui sont tenues en partie ou mal tenues, appelez-la comme vous voulez. Mais le Seigneur, lui, c'est à la perfection et toujours tout le temps. Et regardez bien, si on les reprend, on les lit, là, présence, protection, direction, soutenance, fidélité, et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait tout ce que je t'ai dit. Il n'est pas fini, là. On va voir la semaine prochaine, il va y avoir une autre leçon, puis on va voir que Dieu est en train de continuer à appliquer, à montrer qu'il accomplit son affaire. Alors, quand on lit les textes et qu'on se souvient de ce qui a été dit dans Genèse 28, 13 à 15, on ne peut qu'être émerveillé devant les accomplissements que Dieu fait avec ses promesses. Voyez-vous, quand il a décidé de partir, c'est vrai, je vous ai dit tantôt, ses filles auraient pu dire, « Pas question que je change de pays, moi je reste ici, je reste avec papa, etc. » Alors, tout s'est bien déroulé. Alors, plusieurs promesses ont été accomplies dans ce que Dieu a promis, alors que d'autres s'apprêtent à accomplir. Tu le dit dans Genèse 15, dans un verset, il y a dit cinq choses, mais si vous regardez l'histoire de Jacob dans tout ce qui s'est déroulé après, vous voyez que Dieu accomplit les cinq promesses de façon parfaite. C'est ça qui est merveilleux, le Seigneur. Quand on lit la Bible, croyons ce que le Seigneur nous dit, parce qu'il le fait. Il est fidèle, lui. Alors, l'heure du départ est annoncée clairement, versets 1 à 3. Or, Jacob entendit les discours des enfants de Laban qui disaient, « Jacob a tout pris ce qui appartenait à notre père. » Voyez-vous, il y a de la jalousie dans l'air. Ils se sont rendus compte que Dieu a béni, qu'il a donné des troupeaux, et eux voient ça comme, « Ils sont en train de voler mon père. » C'est pas ça qui se passait du tout. Et de ce qui était notre père, qu'il s'est acquis toute cette richesse. Il est en train de quasiment d'accuser Jacob d'avoir été croche puis d'avoir été un voleur de la richesse de leur père. Et le deuxième verset, Jacob remarqua le visage de Laban. Autrement dit, son beau-père, il s'est rendu compte que, wow, il pensait qu'il n'en récolterait pas de brebis picotées, tachetées, et il se rend compte qu'il y en a une quantité phénoménale. Alors, la face, il change. Tu sais, des fois, quand on dit, j'ai dit quelqu'un quelque chose, la face, il a changé. On lit dans la figure d'une personne. Mais lui, il a lu dans la figure de son père, que son beau-père, ça l'appuie bien entre les deux. Ça passe plus, le courant passe plus. Et voici, il n'était plus à son égard comme auparavant. Donc, c'était pas juste dans son visage, c'était dans son comportement. La main n'était plus dans son comportement comme il était avant avec Jacob. Alors, Jacob, il voit clair. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure des circonstances, Dieu permet qu'on voit que des circonstances ont changé Mais pas seulement les circonstances, la direction directe de Dieu, la parole même de Dieu lui dit. Alors, regardez le verset 23. Donc, Dieu se sert des circonstances pour nous parler. Vous remarquez ça dans votre vie, des fois? Et, verset 3, l'Éternel dit... Qui parle? L'Éternel dit à Jacob, Dieu parle à son serviteur, « Retourne au pays de tes pères et vers ta parenté. » Et, encore une fois, il lui dit encore, « Je serai avec... » Il avait déjà dit dans le verset 15 de Genèse 28, mais il lui dit encore, « Si tu m'obéis, je serai avec toi. » D'alors, les versets 1 et 2 nous montrent que Dieu se sert des circonstances pour parler. Alors, il entend les propos des fils qui sont jaloux, qui sont en train de lui dire, « Il est en train de tout voler, la fortune du père, là, lui-là. Là. » Alors, les fils se retournent contre lui, mais le père aussi, parce que lui, probablement, qui a prêté oreille, puis il a dit, « Ouais, c'est à peu près ça qui se passe. » Ils ont eu peur, eux aussi. Alors, ils sont remplis d'envie. Ils sont jaloux. Ils sont remplis de propos haineux. Ils sont en train de dire qu'ils s'est approprié tout ça par des moyens tout croche, alors que ce n'est pas le cas. Et des mensonges et des calomnies, alors que ce n'était pas ça du tout. Alors Dieu, par la grâce de Dieu, Jacob remarque aussi que son beau-père avait aussi hérité des attitudes de ses fils. Autrement dit, Dieu choisit le moment où ça ne va plus bien dans la famille, pas en tout, pour dire, là, c'est le temps. Quitte. Alors la façon directe, bien, c'est que l'Éternel le dit avec lui-même, quand il lui dit « Retourne au pays de tes pères ». Alors, Jacob, il ne peut pas se méprendre. Il ne peut pas dire, « Là, je devrais-tu partir? C'est-tu le moment? » Il voit par les circonstances, et il le voit par l'ordre direct de Dieu. Alors, si on aurait ça dans nos vies, nous autres, pensez-vous qu'on devrait agir comme Jacob? Bien sûr. Deuxième idée, l'heure du départ est annoncée de façon cordiale, versets 4 à 16. Ce passage-là nous montre que le Seigneur prépare aussi le cœur des épouses et de toute sa maisonnée, parce qu'à cette époque-là, il y avait des épouses, mais il y avait des servantes, des serviteurs aussi. Il permet que tout ce monde-là soit d'accord pour dire « oui, on quitte, c'est le moment-là ». Il aurait pu arriver qu'il y ait de l'opposition familiale et que le départ soit compromis. Pourquoi non? Parce que c'est Dieu qui décide que c'est le temps. Et donc, Dieu dispose les esprits pour que ça s'accomplisse de façon cordiale. Donc, les épouses, il envoie chercher ces deux femmes, ces femmes viennent à lui, et là, il leur raconte, dans le verset 5 à 13, « Je vois le visage de votre père n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Verset 6, « Et vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces, et votre père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a point permis de me faire du mal. » On voit-tu la main de Dieu là-dedans? Dans toute cette histoire-là, Dieu agissait en arrière. Et c'est merveilleux de voir ça. Quand il disait « Les picotés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des agneaux picotés, et etc. Alors, quand Mais ce qui est intéressant, c'est dans le verset 11, il se rend compte que la question de qui croyait que les brebis picotées, tachetées et marquetées, c'était sa subtilité, sa compréhension. Et dans le verset 11, ça dit « Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. » Et il dit, l'ange de Dieu, « Lève les yeux et regarde, tous les béliers qui couvrent les brebis sont rayés, picotés, marchetés, car j'ai vu ce que tu as fait là-bas. » Autrement dit, il est en train de dire, c'est pas ton petit tour de fin-fin qui fait que tu as eu les brebis que tu voulais avoir. Dieu lui a montré dans un songe, c'est moi qui ai intervenu pour que ça donne ce résultat-là. Merveilleux, hein? Et après ça, il dit, parce que le Seigneur, il dit, « J'ai vu ce que tu as fait là-bas. » Le Seigneur est toujours témoin de ce qui se passe de ceux qui abusent de nous. Puis il dit, « Je l'ai vu. » Puis il dit, après ça, il dit, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu oignis un monument, où tu me fis un vœu. Maintenant, now, comme il dit en anglais, maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta parenté. Ça fait deux fois que le Seigneur dit, là, c'est le temps. L'heure du départ est sonnée. Alors, il y a des raisons humaines, puis il y a des raisons spirituelles. Les raisons humaines, c'est qu'il a vu la disgrâce avec son beau-père et avec la famille. Il commence à y avoir des malaises dans la famille. Alors, Laban est devenu mal disposé à son égard. Il veut aussi faire prendre conscience à ses épouses que lui a été fidèle et honnête dans tout le travail qu'il a fait au cours de ces années-là. Et il le fait de façon irréprochable et il le fait de façon constante. Et il veut leur rappeler aussi, parce qu'ils ont été témoins de tout ça pendant 20 ans, que leur père a été un croche envers lui. Il a changé son salaire 10 fois et il a cherché à l'exploiter. Il dit ça à ses femmes et ses femmes ne disent pas « Oh ben là, tu es en train de dire que mon père est un croche. » Non, ils ont voulu parce qu'ils avaient préparé. Maintenant, il y avait aussi des raisons spirituelles. Jacob est pleinement conscient de l'intervention divine dans toute cette aventure-là. Lorsqu'il lui dit, à trois reprises dans le passage de 4 à 16, il lui dit, est conscient d'avoir bénéficié de la faveur, de la grâce de Dieu, parce qu'il dit, « Mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Dans le verset 7, deuxième partie du verset 7, « Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Il voit la main de Dieu. Et dans le verset 9 et 10, « Mais Dieu ne lui a point permis de me faire du mal. » Deux fois. Il part parce qu'il est conscient que Dieu a agi dans tout ça. Versets 11 et 12, il dit, « Jacob est conscient que le Seigneur lui-même s'est révélé à lui. » Et il se rend compte que Dieu lui a dit que le résultat d'avoir beaucoup de brebis, c'était l'intervention divine. Et le Seigneur a clairement montré à Jacob que son enrichissement familial de les brebis, c'est son œuvre, l'œuvre de Dieu, et non pas quoi qu'il ait participé en travaillant, là, mais il reste que l'œuvre était surtout divine. Et quand il lui a dit, « Je suis le Dieu de Bethel. » Alors le Seigneur avait eu à enseigner plusieurs leçons à son serviteur Jacob. La première leçon qu'il a appris au cours de ces 20 ans-là, c'est qu'il était un homme trompeur, portait la tromperie, il avait trompé son père. Et le Seigneur se sert d'un maître trompeur pour lui montrer, « Regarde, il y en a d'autres comme toi, mais il y en a des pires que toi, ils sont encore mieux que toi dans la tromperie. » Il lui a appris une leçon très importante. La tromperie, c'est pas une bonne chose. Et ça, voyez-vous, ça y a pris 20 ans de l'apprendre. C'est la preuve qu'on n'apprend pas vite, comme on dit. Il a appris une autre chose aussi. Il lui a donné la récompense qu'il méritait pour son dur labeur, soit il lui a donné la richesse. Dieu aurait pu permettre qu'il se fasse exploiter puis qu'il soit obligé de retourner dans son pays, mais vide aussi. Mais Dieu a vu qu'il a travaillé honnêtement, de façon constante pendant ces 20 ans-là, et Dieu permet qu'il sorte de cet endroit-là riche. Vous souvenez-vous comment il était quand il est arrivé? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien qu'à peu près son linge sur le dos. C'est à peu près tout. Et aussi, le Seigneur a fait d'autres choses aussi durant sa période-là. Il lui a donné deux épouses, Léa. Et Léa a une caractéristique particulière. C'est qu'un de ses fils est devenu le chef de tribu de qui viendrait le Christ? La lignée de Judas. Et Judas, c'est un fils de Léa, sa première femme. Et il lui a donné aussi Rachel, qui lui donna, elle, deux fils. Joseph, puis Benjamin, plus tard, on va le voir, il va lui donner Benjamin, puis elle va mourir en lui donnant naissance. Donc, il lui a donné deux femmes, et Léa, elle a donné combien de fils? 6 fils. Elle a commencé par en avoir 4, elle a arrêté, elle s'est revenue, elle en a donné 2 autres. Rachel a donné 2 fils, donc la première femme en a donné 6, la deuxième femme en a donné 2. Et les 2 servantes en ont donné 2 chacun. Et ça a été les pères des tribus d'Israël, parce que les noms, c'est les noms des tribus d'Israël. Alors, de tout ce séjour-là, Dieu a permis que le peuple d'Israël prenne naissance là. Donc, les noms, on, si on, ça revient tout au cours de l'histoire. Lévi, Judas, Siméon, tout ça, là, ça va revenir au cours de... Alors, Dieu a permis, durant son séjour, les bases de la tribu, de la nation d'Israël soient établies lors de son séjour. Il en avait-tu donné beaucoup, le Seigneur, dans ses 20 ans? Il en a donné énormément. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le verset 14 à 16, où que Rachel et Léa, après qu'ils leur racontent ses affaires, ils disent « Avons-nous encore une part ou un héritage à la maison de notre père? » Ils sont en train de se rendre compte que si ça aurait été juste de leur père, là, il aurait ressorti à vide. Ils se rendent compte que leur père était croche. Puis, en plus, dans le verset 15, ils sont conscients de la vérité de tout ça, parce qu'ils disent « N'avons-nous pas été traités comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus? » Hey, on parle d'un père qui vend ses filles. Ça n'arrive plus, là. Ils sont conscients de ça. Et après ça, il dit « Il a même mangé notre argent. » Dieu permet qu'ils puissent comprendre que ce que Jacob est en train de leur dire. Dieu a dit de s'en aller, puis qu'ils sont conscients que leur père a vraiment abusé envers Jacob. Parce que quand c'est dans le verset 16, ça dit « Car toutes les richesses que Dieu a ôté à notre père, les filles, sont, ils disent ça, là, sont à nous et à nos enfants. » Et là, ils prennent la décision finale. « Maintenant, donc, fais tout ce que Dieu t'a dit. » Ça devait être réconfortant pour Jacob d'entendre ça. Les femmes ne s'obstinent pas et disent « Ah, ben là, papa n'est pas si pire que ça, puis ici, puis ça. » Ils suivent, ils comprennent la situation. Et en plus, ils sont consciente que c'est Dieu qui sonne l'heure du départ. Ils sont d'accord. C'est une bénédiction, ça? Oui. Parce que l'accord entre êtres humains n'est pas trop facile, on le sait. Mais là, l'accord, ils l'ont, fait que l'heure du départ a sonné. Maintenant, le troisième point, c'est qu'on voit l'heure du départ est annoncée de façon commode. Autrement dit, il aurait pu dire, aller voir son beau-père, puis dire, écoute le beau-père, là, je m'en vais. C'est à moi ces brebis-là. Ça, c'est mes femmes. Non, il a dit, si je fais ça, connaissant le caractère de son beau-père, connaissant le caractère de ses fils, il s'est dit probablement que ça va tourner à la catastrophe, la chicane. Fait que pendant que son beau-père était allé tondre ses brebis, il devait aller faire ça loin, il en a profité pendant que le beau-père était loin pour se pousser en douceur. En catimini, comme on dit. Versets 17 et 18, donc, il quitte, quand on dit qu'il quitte commodément, c'est que Dieu permet qu'il puisse quitter avec ses femmes et qu'il puisse quitter avec toute sa richesse, parce qu'à cette époque-là, la richesse, tu n'as pas des comptes en banque. La richesse, tu as des animaux. Plus tu avais d'animaux, plus tu étais riche. Jacob se leva, fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux, verset 17. Verset 18, et il emmena tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis, son bétail particulier qu'il avait acquis à Padan-Aram pour venir vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Le Seigneur a manifesté sa grâce, sa miséricorde et sa bonté en permettant que toute la famille soit d'accord avec sa décision et de suivre, d'obéir à l'ordre divin. Maintenant, c'est le temps de s'en aller. Dans le verset 19 à 21, il quitte de la bonne manière et il quitte au bon moment. Parce que c'est fort probable, connaissant le caractère de Laban, que s'il aurait été le voir et il aurait dit « Hey, le beau-père, on s'en va. » Le beau-père « Hey, t'en iras pas que mes richesses. » Puis la chicane aurait pogné. Donc, il est assez intelligent pour se rendre compte que ça aurait pu dégénérer et qu'il a voulu éviter la chicane. Il dit « Ah, pendant qu'il est allé tondre ses brebis, nous, on quitte parce que Dieu nous a dit de quitter. » Ça dit dans le verset 19, « Or Laban était allé tondre ses brebis. » Et ici, on apprend un petit quelque chose qui se passe, puis qu'on va voir que ça a des conséquences plus tard. Et Rachel, sa deuxième femme, vola les téraphimes de son père. Oh, des dieux familiaux, des dieux de païens. Elle a pris des dieux de païens qui étaient des comme de statues, puis elle s'est dit, « Je les vole. » Elle n'a pas demandé à son père, « Peux-tu les emmener? » Elle les a volés. Mais on va voir que ça aura des conséquences. Verset verset 18, et il amena tout son bétail qu'il avait cuit. Et verset 20, et Jacob trompa Laban l'araméen. Voyez-vous, le trompeur qui trompait son père était trompé, et lui est en train de tromper son beau. Où le jeu qui se produit là. Et en ne lui disant point qu'il voulait s'enfuir. Autrement dit, il s'est poussé en silence. Le beau-père est parti, c'est le temps de se pousser. Verset 21, il s'enfuit. Voyez-vous, même les verbes utilisés. Il n'a pas quitté en douceur, en faire une fête comme son beau-père, plus tard, va lui reprocher. « T'aurais pu nous faire ci, t'aurais pu faire ça. » Et il dit, il s'enfuit, lui et tout ce qui lui appartenait. Il se leva, passa le fleuve et s'avança sur la montagne de Galaad. Donc, Jacob se sent dans l'obligation de quitter à l'improviste pour éviter des disputes et une possible violence avec son beau-père et ses fils. Maintenant, on va juste revenir un petit peu sur la question des téraphimes. Parce que des fois, on se pose la question, veux-tu bien me dire ça quoi, ça servait à quoi, des téraphimes? Fait qu'on va juste développer un petit peu ça avant de faire la conclusion. Dans le verset 19, ça dit, la deuxième partie du verset 19, « Et Rachel déroba, elle les a volés, c'est volé ça, déroba les téraphimes de son père. » Autrement dit, son père, c'était une personne idolâtre qui idolâtrait un des dieux imaginaires, qui n'était pas le dieu d'Israël. Puis elle, on peut se demander, mais elle, si elle était chrétienne, veux-tu bien me dire pourquoi elle a appris ça? On peut se poser la question. Hein? Alors, Jacob, il quitte, mais il n'est pas conscient que sa femme a fait ça. Autrement dit, elle, elle a fait ça, elle aussi en cachette. Voyez-vous, ce qu'on va se rendre compte dans l'histoire, quand on lit la Bible, c'est que tout ce qu'on fait qui est charnel, ou qu'on fait en cachette, ça finit toujours pour nous retentir dans la figure, comme on dit. Alors, on peut s'interroger sur les motivations de Rachel, pourquoi elle a volé les dieux de son père. On va en nommer quelques-unes. Probablement un outil de prévention. Dans quel sens? Parce qu'elle se disait, si le beau-père court après nous autres, puis qu'il nous rattrape, que j'ai ça, ça va nous faire un outil de négociation. Elle a peut-être pensé à ça. S'il aurait été bloqué dans leur fuite, et est-ce qu'elle l'avait fait aussi dans l'intention d'arrêter son père d'idolâtrer des statues? On ne le sait pas, mais on fait juste examiner les différentes motivations, parce que la Bible ne nous dit pas les motivations. Et ça aurait pu être aussi pour se protéger. Parce qu'il y avait des croyances qui étaient rattachées à la possession de ces objets-là, qui étaient des objets d'idolâtrie, et elle pouvait penser, mais si j'amène ça avec moi, ça va me protéger. Parce que c'est ça qui roulait à l'époque, les gens croyaient que les téraphimes, ça leur apportait de la protection. Autre chose, elle pouvait penser qu'il y avait une bénédiction de rattacher au fait de les voler. Pourquoi? Parce que les téraphimes, ça pouvait être un héritage familial. Donc, ça faisait partie de l'héritage. Celui qui héritait les téraphimes, c'est comme celui qui héritait de l'héritage de la famille. Donc, elle avait peut-être ça aussi à l'esprit. Je vais ramasser ça, donc je vais avoir l'héritage du père en plus de ce que j'ai déjà. Possiblement. Ensuite, elle voulait possiblement aussi vouloir conserver des histoires, des souvenirs ancestraux. On veut garder des affaires de vieilles affaires de famille, mais c'était des affaires d'idolâtrie. Peut-être aussi la convoitise, parce que ces objets-là étaient faits de métaux précieux, c'est-à-dire des statues. Et elle, peut-être qu'elle s'est dit, si je les emmène, si on vient être mal pris, je vais pouvoir les vendre. Et elle croyait aussi à l'idée de la prospérité à l'intérieur de tout ça. Elle croyait que leur possession, quand tu possédais les téraphimes, c'était comme une assurance que tu hériterais aussi de l'héritage de la famille. Fait qu'elle s'est dit, si j'ai, mon père meurt, je vais ramasser la fortune de mon père en même temps. Alors, ses motivations, peu importe ce qu'elles étaient, parmi celles qu'on a nommées, possiblement, n'étaient pas bonnes. Parce qu'on va voir qu'elle ne s'est pas faite pogner, comme on dit, dans son vol par son beau-père. Par son père, c'est-à-dire, parce que plus tard, il va y rattraper, on sait l'histoire. Mais ça aurait pu mal tourner. parce qu'elle a fait assemblée qu'elle était dans ses menstruations, elle s'est assise dessus, puis son père cherchait ça parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait voler. Mais ça aurait pu mal tourner. Bon, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir d'un texte comme celui qu'on vient d'étudier? Moi, j'en vois trois. Il y en a fort probablement beaucoup plus que trois, mais j'en vois au moins trois. La première, c'est qu'on se doit de ne jamais oublier la fidélité absolue et sans faille de Dieu pour accomplir ses promesses. Si vous avez déjà parlé qu'il existe un livre qui a été écrit par Pasteur Clark des années... On a même le projet de le traduire. Il y a, je ne me souviens pas combien de versets qui donnent des promesses divines. C'est de valeur qu'on ne les connaisse pas plus que ça. On devrait les connaître, parce que quand on connaît les promesses de Dieu, il y a une chose dont on est sûr, c'est quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit tout le temps, sans faille. Alors, lire notre Bible, plus on lit notre Bible, plus on voit qu'est-ce que Dieu a promis dans les Écritures, plus on est sûr que ça va s'accomplir. Actuellement, on parle du deuxième retour de Christ, la deuxième venue de Christ. Ça a été prédit dans les Écritures, c'est une promesse, je vais revenir. Dites-vous une chose, ça prend du temps, mais ça va arriver. C'est ça qui est merveilleux avec les choses de Dieu. Dieu ne ment jamais, et ce qu'il promet, il l'accomplit de façon infaillible et tout le temps, en tout temps. C'est-tu quelque chose de merveilleux? Comment on retiendra juste ça de la leçon de ce matin, on a beaucoup retenu. Deuxième chose, dans Nombre 23, on a aussi un verset qui nous dit ça. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il a dit, ne le fera-t-il point? Il a parlé, ne le réalisera-t-il pas? Merveilleux, hein? Deuxième application, dans nos actions qui impliquent de possibles disputes et violences, il faut toujours agir avec prudence et prévention. Jacob, il y a une leçon à nous donner. Ça. Quand tu es dans des situations où ça peut se développer, que ça va tourner à chicane, des fois, tu es peut-être mieux d'agir avec sagesse puis de faire tout pour qu'il n'y ait pas de chicane. On le sait jusqu'à quel point ce n'est pas agréable, ni dans une église, ni dans une famille, ni d'aucune façon, ni au travail. Des disputes, ça amène beaucoup de douleur dans la vie des êtres humains. Alors, quand on est capable de l'éviter, je pense que ça nous montre la leçon, que quand on est capable d'éviter une situation de violence ou de dispute, il faut faire en sorte de l'éviter. Donc, deux belles leçons. Troisième, sachons que le vol de sa femme, autrement dit, les péchés qui sont accomplis dans la famille finissent toujours par rebondir sur nous. On voit cette leçon-là dans le texte aujourd'hui. Aussi. Le vol, y compris celui fait par nos proches parents, nos enfants, filles. Alors, s'il y a un de vos enfants qui vole, pensez-vous que ça retombera pas sur vous? Ben oui. Alors, ça montre qu'on est solidaire dans la famille. À quelque part, s'il y a un de tes enfants qui fait une bêtise, qui se fait rembourser par la police, ben ça finit par rejaillir sur toi puis t'enlever toi-même ta réputation. Alors, sachons que le vol et tout autre péché qui est fait par notre proche famille, ça l'entraîne inévitablement des troubles sérieux et des graves problèmes. C'est sûr que plus tard, elle va réaliser qu'elle n'aurait pas dû faire ça, mais là, elle l'a fait. Alors, louons le Seigneur pour sa fidélité, sa direction et sa pédagogie dans nos vies, autrement dit, sa manière de nous enseigner les choses, qui ne se font pas toujours instantanément. Il nous fait vivre des expériences qui font en sorte qu'on finit par comprendre. On est lent. Le Seigneur lui-même, quand il est venu sur la terre, il a dit à ses apôtres, « Oh, comme vous êtes lent à comprendre, aux gens sans intelligence. » Ce n'est pas un compliment que tu te fais dire par le Seigneur quand tu te fais dire ça. Tu n'es pas vite, autrement dit. Mais on est tous comme ça. Alors, que le Seigneur bénisse le reste de cette journée. Alors, on va terminer par une brève prière. Seigneur, merci encore une fois. Dans tous les textes des Écritures, il y a toujours des leçons importantes à retenir, des principes à appliquer dans nos vies de tous les jours. On te demande de permettre qu'on comprenne ce qu'on vient d'étudier et qu'on retienne les principes à appliquer dans notre vie de tous les jours et de nous donner, par grâce, de les accomplir, que ça devienne une partie intégrante de nos vies. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.